VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré et Jean-Roger Bion en votre compagnie ce matin. Bienvenue dans cette édition du mardi 17 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité.
Au Nigeria, une course contre la montre est engagée pour éviter la grève illimitée que menacent de lancer les syndicats.
Les Nations Unies se disent préoccupées par la situation au Burundi, en particulier la multiplication des arrestations.
Question ce matin, faut-il un troisième mandat pour Alpha Condé en Guinée?
Il a des projets. Mais il faudrait que les Guinéens nous laissent terminer ce projet.
Je suis pour qu'il se présente, parce qu'on a le courant.
Le président, quel que soit ce qu'il a fait pour le pays, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa gentillesse, la Constitution dit deux mandats.
Voilà, l'ancien chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba comparé de nouveau depuis hier devant la CPI.
Nouvelle tentative de relance à Vienne des négociations sur la paix en Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, une course contre la montre est engagée pour éviter la grève illimitée que menacent de lancer les syndicats. À Abuja, le gouvernement a entamé des discussions difficiles avec les centrales syndicales qui réclament la baisse des prix du carburant. Les précisions, Michel Joseph.
Le gouvernement, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont débuté hier à Abuja leurs discussions. Les deux centrales syndicales ont appelé à une grève illimitée pour réclamer la baisse du prix de l'essence à la pompe. Les discussions seront difficiles. Le Bureau national des statistiques a annoncé que l'inflation a augmenté en avril et, selon le sous-secrétaire d'État au pétrole, Emmanuel Kachikou, la production de pétrole brut a chuté à environ 1,4 million de barils par jour contre 2 millions il y a quelques années. Pour le sous-secrétaire d'État, la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. De leur côté, les syndicats ont prévenu que si les négociations échouent, la grève générale débuterait dès demain mercredi. Les administrations aéroports, ports, banques, magasins et marchés devraient être affectées par ce débrayage.
Michel Joseph, les Nations Unies se disent préoccupées par la situation au Burundi, en particulier la multiplication des arrestations d'Arjuma Compaoré.
Nous sommes profondément inquiets de l'augmentation des violences et des informations sur de nombreux cas de détention ces derniers jours, a déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole onusien. Cette situation pourrait être liée à l'approche du premier anniversaire de la tentative de putsch contre le président Pierre Nkurunziza, a souligné M. Haq, ajoutant que l'ONU suit de près la situation et réitère son appel au dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition. De nombreux jeunes gens ont été arrêtés la semaine dernière dans le quartier de Muzaga, dans le sud de Bujumbura, de même que dans la commune de Mugamba, province de Bururi, une conséquence de la multiplication des rafles menées par les forces de sécurité. La candidature, en avril 2015, du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat a été l'élément déclencheur de la crise que vit aujourd'hui le Burundi. La violence a fait plus de 500 morts et contraint plus de 270 000 Burundais à chercher refuge dans les pays voisins.
L'ancien chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba comparaît de nouveau depuis hier devant la CPI qui doit déterminer sa peine pour les crimes perpétrés par sa milice en Centrafrique. Bemba a déjà été reconnu coupable de 5 crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Centrafrique en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Mais le quantum de la peine de M. Bemba, âgé de 53 ans, vice-président de la RDC en 2003 et 2006, restait encore à fixer. Après de nouveaux débats, ils se sont ouverts lundi et doivent s'achever demain. Durant ces 3 jours d'audience, les juges entendront plusieurs témoins, les réquisitions du ministère public ainsi que les plaidoiries de la défense. Jean-Pierre Bemba encourt jusqu'à 30 ans de prison, voire la perpétuité si les juges estiment que l'extrême gravité du crime le justifie. Il a déjà passé 8 années en détention.
Au Kenya, la police anti-émeute a violemment dispersé hier avec des grenades lacrymogènes et des coups de bâton une manifestation de l'opposition. L'opposition qui demande, selon l'AFP, la dissolution de la commission électorale jugée partisane. Plusieurs centaines de manifestants se dirigeaient vers l'entrée de la commission électorale dans le centre de Nairobi lorsque la police est intervenue.
La communauté internationale a levé l'embargo sur les armes à destination de la Libye pour soutenir le nouveau gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj, alors que ce dernier tente d'asseoir son autorité sur un pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Eric Manirakiza.
La décision a été prise à l'unanimité à Vienne, en Autriche. Les grandes puissances et les pays voisins de la Libye ont compris l'ultime nécessité de réarmer Tripoli pour juguler la menace djihadiste. Dissensions politiques et vide sécuritaire ont facilité depuis 2014 l'implantation de l'EI en Libye, constituant une menace directe pour ses voisins et l'Europe. Les ministres présents à Vienne se sont dit prêts à répondre aux demandes du gouvernement libyen en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorisées. John Kerry et son homologue italien Paolo Gentiloni ont soutenu que la communauté internationale n'avait en revanche pas l'intention d'intervenir militairement en Libye. L'enjeu est aussi d'endiguer le flux migratoire depuis la Libye à 300 km seulement des côtes italiennes. L'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes à la Libye a été imposé au début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011, mais a été violé à maintes reprises.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deuxième semaine dans le procès de trois Américains somaliens accusés de complot en vue de fournir un soutien matériel au groupe État islamique en Syrie. Lionel Gaïma.
Abdullahi Youssouf, âgé de 20 ans, qui coopère avec le procureur, a témoigné contre les trois accusés devant un tribunal de Minneapolis. Sous les questions des avocats de la défense, il semblait parfois troublé. Interrogé sur les incohérences dans son récit, Youssouf a reconnu avoir menti aux agents américains au cours de ses premiers entretiens, mais que plus tard, il a dit la vérité. Youssouf est un ancien ami des accusés qui, dit-il, l'ont introduit à l'islam radical. Youssouf a été arrêté avant qu'il n'embarque dans un vol qui devrait le conduire en Syrie. Il a plaidé coupable d'avoir fourni un soutien matériel, en l'occurrence de sa personne, en tant que combattant, à l'État islamique. Mohamed Farah, âgé de 22 ans, Gouled Omar, 21 ans, et Abdirahman Daoud, 22 ans, sont accusés d'avoir organisé des rencontres à plusieurs reprises de mars 2014 à avril 2015 pour discuter du meilleur moyen pour rejoindre le groupe terroriste en Syrie. Mais ils ont été tous appréhendés par la police juste avant de prendre leur vol. Les trois ont plaidé non coupables et risquent de 15 ans à la prison à vie pour complot en vue de commettre des assassinats en dehors des États-Unis.
Nouvelle tentative ce matin de relance à Vienne des négociations sur la paix en Syrie qui se sont récemment heurtées sur le terrain à des violations de la trêve et au blocage de l'aide humanitaire. Le groupe international de soutien à la Syrie, piloté par les États-Unis et la Russie, est convoqué dans la capitale autrichienne selon l'AFP. Citant la diplomatie américaine, Washington va remettre sur la table les trois objectifs fixés pour stopper cette guerre dévastatrice. Consolider la cessation des hostilités, garantir un accès humanitaire dans tout le pays et accélérer la transition politique.
Et ici aux États-Unis, peut-être de nouvelles révélations dans l'affaire Edward Snowden. Le site américain d'information The Intercept a annoncé ce lundi avoir mis à disposition d'autres médias l'ensemble des documents de l'ancien consultant des renseignements américains actuellement en exil en Russie. Cette décision pourrait conduire à de nouveaux détails sur l'ampleur des programmes de surveillance de la NSA et d'autres agences américaines de renseignement après celle transférée en 2013 par Edward Snowden.
Débat ce mardi au Parlement du Venezuela sur la décision du gouvernement d'accroître ses pouvoirs en matière sécuritaire. Selon les observateurs, le ton devrait encore monter entre le président Maduro et l'opposition qui appelle à descendre dans la rue mercredi. Hier soir, le pays a fait un pas de plus vers l'autoritarisme après la proclamation de l'état d'exception par Nicolas Maduro. Un décret donne durant 60 jours l'ordre à l'armée et à la police de garantir la distribution et la commercialisation des aliments et produits de première nécessité. Des comités locaux de citoyens récemment créés se voient dotés de pouvoirs de surveillance et de maintien de l'ordre pour garantir la sécurité et la souveraineté du pays.
Au Brésil, le parti de Dilma Rousseff a écarté du pouvoir dans le cadre d'une procédure de destitution controversée, a appelé à la mobilisation contre son successeur, Michel Temer, qui a effectivement œuvré à sa chute. Le nouveau président a entamé lundi à la présidence de délicates discussions avec les centrales syndicales autour d'une réforme du système déficitaire des retraites prévoyant la fixation d'un âge minimum de départ à la retraite. Pendant ce temps, les manifestations contre le gouvernement se sont succédées sans grande ampleur.
La Corée du Nord a nommé Ryu Hong-ho, un diplomate de carrière, comme un nouveau ministre des Affaires étrangères selon une lettre diplomatique de Pyongyang citée par l'agence EPI.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Au cours du premier trimestre 2016, la production minière de l'Afrique du Sud a connu une baisse de 18% par rapport à la même période en 2015, indique l'agence Ecofin. Les plus mauvais résultats proviennent du platine et du charbon, qui ont respectivement diminué de 4,55 et 4 points de pourcentage. Le Rwanda a inauguré lundi une centrale électrique au méthane sur le lac Kivu. L'installation doit à terme augmenter de plus de 60% la capacité de production d'électricité du pays, rapporte l'AFP. Située à Kibuye, Kivuwatt produit 26 mégawatts. L'entreprise américaine Contour Global prévoit de construire d'autres plateformes afin d'augmenter sa capacité à 100 mégawatts. Le pompage du méthane permet de stabiliser le lac Kivu en le dégazant, assure le gouvernement rwandais. Le Pakistanais Amin Manekia a été nommé directeur exécutif du groupe Ecobank pour le pôle banque de grandes entreprises et d'investissement, indique l'APA. Il remplace l'Ivoirien Charles Kier, qui a pris la tête de la filiale du groupe au Nigeria en décembre. Sa nomination prend effet à compter du 4 juillet. Avant d'être muté en Afrique du Sud, M. Manekia a passé 2 années à Sambia Financial Group en Arabie Saoudite, où il a pris en main le portefeuille de l'activité banque institutionnelle suite à la crise financière. Il a notamment dirigé en 2007 l'activité banque commerciale pour Citibank en Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
Retour sur la nomination de Fatma Samoura comme secrétaire générale de la FIFA.
La Sénégalaise, diplomate depuis de nombreuses années aux Nations Unies, a donc été nommée, vous le savez, secrétaire générale de la Fédération internationale de football par Gianni Infantino. Elle devient au passage la première femme à occuper ce poste important à la FIFA. Elle était notre invitée hier dans Sporama. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview.
J'ai une grande expérience dans le secteur privé, dans la gestion des urgences, aussi des programmes de développement. J'ai l'habitude de diriger de grandes équipes d'hommes et de femmes qui viennent des backgrounds religieux, raciaux, sociaux, différents. J'ai une expérience en matière également de mobilisation des ressources, également la possibilité de faire des médiations avec un certain succès, mais surtout une habilité à travailler dans des domaines où les programmes changent de manière constante.
Fatma Samoura, jointe à Abuja, où elle est toujours en poste pour le PNUD.
Football encore, côté judiciaire, cette fois-ci en Italie.
Le sélectionneur de l'équipe d'Italie et futur entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, a été acquitté hier par le tribunal de Crémone dans le cadre du scandale des matchs truqués du Calcio. Cette décision de justice apparaît comme un immense soulagement pour Conte, qui a dévoilé une liste élargie de joueurs appelés à participer dès demain à un premier stage de préparation à l'Euro avec l'Italie. Enfin Bagassi, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain, les playoffs et la grande finale de la Conférence Ouest qui a démarré cette nuit.
Oui, Oklahoma City a poursuivi son excellent parcours en play-off en s'imposant hier soir chez les champions Golden State 108 à 102 lors de la première manche de la finale de la Conférence Ouest. Le fondeur, après avoir éliminé San Antonio en demi-finale, a renversé la rencontre en deuxième période, notamment grâce à un homme, Russell Westbrook, auteur de 27 points, 12 passes décisives et 6 rebonds grâce à lui et à Kevin Durant, 26 points. OKC, mené 60-47 à la mi-temps, a arraché la victoire dans ses sommets entre deux armadas offensives de la Ligue, réduisant au silence les tribunes d'Oracle Arena d'Oakland. Le match numéro 2 de la série, qui se joue au meilleur de 7 rencontres, est prévu mercredi à Oakland. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Bagassi Koura de retour avec vous. Place à présent au dossier du jour. Direction la Guinée, où le président Alpha Condé dit vouloir laisser au peuple de décider s'il va ou pas se présenter pour un troisième mandat. Le président guinéen était face à la presse dimanche dernier. Et ses propos ont provoqué une vague de réactions dans le pays. Voyons tout ça avec Zakaria Camara sur place.
C'est une réponse qui fait débat en Guinée. À la question d'un journaliste sur sa candidature ou pas à la présidentielle de 2020, le président Alpha Condé a dit au cours d'une rencontre avec la presse que seul le peuple déciderait. Des propos qui trouvent quelques défenseurs à Conakry.
Parce que franchement, il a prouvé au peuple guinéen qu'il est guinéen et il travaille. Il a des projets.
Mais il faudrait que les Guinéens le laissent terminer ses projets.
Je suis pour qu'ils se présentent. Parce qu'on a le courant. En tout cas, chez moi, j'ai le courant, j'ai l'eau. C'est tout problème de courant. Il a beaucoup fait, il a fait son mieux, son maximum. Ça fait de longues dates, on n'a pas connu de courant. Si on peut le laisser continuer encore pour améliorer plus, ça, je suis pour.
Améliorer, certes, même s'il le voulait, la constitution guinéenne, elle, dit le contraire. Le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il faut le respecter, réagissent ces Guinéens.
Le président, quel que soit ce qu'il a fait pour le pays, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa gentillesse, la constitution dit deux mandats. Faisons deux mandats et laissons la place aux autres. Ce n'est pas un royaume, c'est un pays qui est régi aussi par des lois.
Nous ne sommes pas dans un pays de dictature ou de royaume. Le troisième mandat, non et non.
Si réellement il se dit de laisser la possibilité au peuple de décider, cela veut dire que réellement il envisage peut-être de modifier la constitution. Parce que forcément, quand un chef de l'État africain parle de ce genre, nous sous-entendons déjà des idées derrière la tête.
Si toutefois, monsieur le président, a cette idée-là derrière sa tête, je lui conseille vraiment de revoir autre chose, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. La norme suprême qui est la Constitution a prévu quel est le nombre de mandats qu'un président doit faire.
Nous, on est là, on souffre, on a nos diplômes à la maison, on devient des commerçants. On n'a rien à faire quoi. Avec lui, on en a marre. Qu'est-ce qu'il donne notre président ?
S'adressant au président Condé à l'occasion de son investiture, le président de la Cour constitutionnelle avait rappelé au président réélu que le peuple renouvelle son choix pour son dernier mandat et qu'il est facile d'interpeller le président « Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes » qu'on a crise à Kariya Camara pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Le syndicat des magistrats du Tchad dénonce l'agression dont sont victimes de façon permanente ses membres en plein exercice de leurs fonctions. Le syndicat demande donc au gouvernement et aux autorités judiciaires de prendre toutes leurs responsabilités. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
C'est depuis 2015 que les magistrats font l'objet d'agressions à main armée par les éléments des forces de défense et de sécurité. Ces agresseurs ne sont inquiétés ni par la justice ni par leur conseil de discipline.
Nous estimons qu'il est temps qu'on réfléchisse ensemble à tous les niveaux pour régler définitivement cette question d'insécurité des magistrats.
Ali Abdoulaye Ibrahim, président du conseil des magistrats du Tchad. Pour lui, le dernier cas remonte en février 2016 où un magistrat en poste à Bagassola dans la région région du lac a été agressé par un agent de sécurité. Le tort de ce magistrat est d'avoir pris la décision de transférer les brigands de la prison de Bagassola à la maison d'arrêt de Bol, chef-lieu de la dite région, compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Insécurité perpétrée par la nébuleuse Boko Haram. Ce magistrat à bord d'une moto a failli être écrasé par son agresseur.
Le juge nous a saisis. Nous avons demandé au parquet de diligenter l'enquête. Le parquet général était obligé d'écrire au chef d'état-major pour mettre à sa disposition le militaire concerné. Rien n'a été fait. C'est pourquoi nous avons exigé à ce qu'on traite ce dossier avec diligence. Et nous avons estimé que le chef de sécurité, c'est le magistrat. Si lui, il est inquiété combien de fois, les principes citoyens. Et donc, nous interpellons et le parquet et surtout au gouvernement parce que la responsabilité est partagée.
Pour Ali Abdoulaye Ibrahim, si cette affaire n'est pas réglée, son organisation passera à une vitesse supérieure pour se faire entendre.
Nous avons adopté une stratégie de dialogue qui a bien marché avec le ministère de tutelle. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut régler par le dialogue. Si les choses piétinent, pour quelque raison qu'il soit, eh bien, nous avons plusieurs moyens légaux qui pourraient nous permettre à nous faire entendre. Je ne peux pas vous dévoiler mes stratégies. Le magistrat, ce n'est pas une petite personne. Les lois de la République en vigueur, si seulement les magistrats les appliquent sans restriction et si le parquet ne s'auto-censure pas, je ne pense pas que la protection du magistrat puisse poser problème.
Selon les autorités judiciaires, comme l'enquête suit son cours, elle se refuse tout commentaire pour l'instant. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Aux Comores, le président élu Azali Assoumani tient ce mardi sa toute première conférence de presse, deux jours seulement après avoir été proclamé vainqueur du second tour de la présidentielle du 10 avril, avec 41,43% des voix contre 39,91% au candidat du pouvoir sortant, Mohamed Ali Swahili, et 18,91% pour Mouni Baraka. Ce second tour, il faut le dire, à suspense, avait nécessité la reprise du scrutin dans 13 bureaux de vote, alors que 2000 voix seulement séparaient Assoumani à Swahili. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint Ali Madi, il est directeur de Karibou Mag à Moroni.
C'est le calme absolu. Les partisans du candidat Mohamed Ali Swahili sont invisibles. Il a d'ailleurs fait une conférence de presse pour prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Même s'il n'a pas daigné féliciter son ex-adversaire pour son élection, dans tous les cas, tout est calmé, il n'y a pas de tension, donc on reprend une vie normale après plusieurs mois de campagne électorale.
Azali Assoumani est déclaré élu. Il a déjà dirigé le pays de 1999 à 2006. Quels sont les défis qu'il attend cette fois-ci?
Alors les défis sont immenses aujourd'hui parce que tel qu'il a laissé le pays en 2006, la situation est presque la même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, même au niveau de la capitale. Alors, dans les régions reculées, ils n'ont pas du tout d'électricité. Alors, toutes les routes sont délabrées sur le territoire national. Les jeunes, il y en a trop au chômage. Et vous savez, dans ce pays, il n'y a même pas un salaire minimum. Donc, vous voyez que les défis sont énormes. Est-ce que le nouveau pouvoir va pouvoir y répondre? C'est la question. Sauf que dans la campagne électorale, on n'a pas entendu grand-chose qui puisse faire espérer par rapport à cette nouvelle élection.
Sur quelles ressources le nouveau président pourrait-il compter pour résoudre tous ces problèmes?
C'est l'équation la plus compliquée aux Comores. Les Comores importent tout. Hein. Les Comores dépendent de l'extérieur, dépendent de l'aide publique, dépendent de la diaspora basée notamment en France. Le pays ne produit pas. Le pays n'a pas de richesse aujourd'hui visible. On parle de pétrole, de gaz qui pourrait un jour être exploité aux Comores, mais rien n'est encore clair jusqu'aujourd'hui. Donc le nouveau président qui connaît le pays, qui l'a déjà dirigé pendant 7 ans, il peut se baser sur les ressources humaines qu'il y a dans ce pays. Parce que de ce point de vue-là, il y a du potentiel. Après, il peut développer du tourisme parce qu'on a un climat beau, naturel, qui a toutes les potentialités possibles, mais jusqu'ici, on n'a rien fait. Alors, on a des terres qui sont fertiles, on a une mer poissonneuse, mais tout ça, rien n'a été exploité jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra faire quelque chose à partir de ces ressources-là? C'est la question que l'on doit se poser. Peut-être il pourra commencer à y répondre parce qu'il organise sa première conférence de presse avec les journalistes.
Voilà, c'était donc Ali Madi, directeur de Caribou Mag. Il a été joint par Timothée Donangmaï à Moroni, aux Comores.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Allez, on termine par le Cameroun. Triste sort de l'industrie cinématographique dans ce pays. Une industrie qui s'émeut. Une agonie née notamment de la fermeture des salles de cinéma à travers le pays pour des raisons qu'on ignore jusqu'ici, mais des cinéastes de la première heure évoquent des détournements de fonds mis à disposition juste après les années d'indépendance. Conséquence, les salles de cinéma, jadis bondées de monde, sont transformées aujourd'hui en magasins, boutiques, quincailleries ou églises. De Yaoundé, la correspondante de Sandrine Yamga.
Boulevard de la Liberté, nous sommes au quartier Akwa, à Douala, capitale économique du Cameroun. Un immeuble s'y dresse fièrement, mais à observer de près, les murs sont défraîchis, attaqués par des moisissures de toutes parts. Des planches faisant office de barrière entourent la bâtisse, sur laquelle on peut lire « Vouri ». C'est ce qui reste de la plus grande salle de cinéma de la ville de Douala. En 2009, le cinéma Le Vouri a fermé ses portes, allongeant ainsi la longue liste de ces lieux qui n'existaient plus quelques années avant à travers le pays. Douala en particulier, le Cameroun en général n'a plus de salle de cinéma. Une situation difficile à admettre par les usagers qui tentent tout de même des justifications.
Les salles de cinéma ont fermé parce qu'on a eu plus de facilité en voyant le film à domicile qu'aller peut-être sortir à minuit dans une salle de cinéma et être agressé en route.
Vous imaginez que les DVD, Internet et autres, tout cela s'est développé au détriment des films en salle. Oui, c'est la raison fondamentale, je pense.
Ça me ferait plaisir si ça arrive encore de nouveau.
Un promoteur culturel et fondateur d'une salle de cinéma à l'Ouest Cameroun se rappelle de l'émotion vécue dans les salles de cinéma, surtout lorsque l'affiche était camerounaise. Dieudonné Ngaha redoute cependant que le même espoir puisse encore être réalisé de nos jours.
Et généralement, c'était des leçons, des films à caractère éducatif, des films didactiques. Drainer une foule terrible quand on a annoncé le premier film camerounais par Daniel Kawa. Je ne sais pas ce qui peut attirer particulièrement la jeunesse aujourd'hui par rapport au cinéma parce qu'à côté, ils ont de quoi se satisfaire par rapport à ce genre de loisirs.
Que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive là? Comment expliquer que le Cameroun ne dispose plus de salles de cinéma qui comptaient pourtant parmi les principaux lieux de divertissement et d'attraction? Un acteur du secteur a sa petite idée là-dessus. Dikonge Pipa, cinéaste, accuse les gouvernants de n'avoir pas pris soin de l'industrie cinématographique et pourtant des fonds étaient mis à disposition pour la développer.
Le cinéma n'était pas financé en tant que tel, mais puisque Aïdjo avait créé le FODIC, le Fonds de développement des industries cinématographiques. C'était une première et une occasion unique pour que le Cameroun puisse exploiter le cinéma, parce qu'on aidait même les exploitants de ça. C'était devenu la caisse noire, que quand quelqu'un va en mission, un ministre va en mission, il vient prendre de l'argent pour aller en mission. L'État était préoccupé par le cinéma. Comme il ne connaissait pas ce que c'était, on a détourné l'esprit de l'État.
La problématique de l'absence des salles de cinéma semble ne pas être la préoccupation pour l'heure des ministères concernés. Mais il y a quelques semaines, l'investisseur français Vincent Bolloré, reçu par le chef de l'État camerounais Paul Biya, a dit son intention d'ouvrir des salles de cinéma au Cameroun. Il ne reste plus qu'à attendre. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique.
Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par Bagassi Kouré et Jean-Roger Bion. La production a été assurée par Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. Passez une très bonne journée. L'info est en continu, c'est sur voafrique.com.